Seb, comment vas-tu?
Ça va très bien, Émile. Car on part en road trip et on amène notre cabaret des curiosités du web dans plusieurs villes du Québec au cours des prochains mois. Dans ces shows live, on explore de drôles d'histoires qui parfois nous font rire et parfois nous terrorisent. Les histoires changent à chaque show.
Le tout débute à Gatineau le 27 avril dans le cadre du Festival Transistor. Après, on se retrouve à Shawinigan le 13 juin au Wabasso avec nos amis de Côté Sombre. Et le 11 juillet, on se retrouve à Longueuil dans le cadre du Comic Fest à la salle Fanplast. Les billets sont en vente pour tous ces shows-là et d'autres dates risquent de s'ajouter sous peu, donc restez à l'affût.
Rendez-vous au distorsionpodcast.com pour connaître toutes nos dates et vous procurer des billets. Si vous souhaitez que Distorsion passe faire un tour dans votre région, écrivez-nous. On a vraiment hâte d'aller à votre rencontre.
De retour à votre programme principal.
Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur...
Autre événement violent en plein jour, et on peut dire sans se tromper que cet homme de 31 ans l'a échappé belle jeudi matin, la tête enrubannée en raison de blessures subies après une raclée que lui ont infligée deux suspects. On peut d'ailleurs apercevoir des blessures près des yeux. L'homme sur civière nous a quand même salué quand il a aperçu notre caméra sur la rue de la Rotonde, à l'île des Sœurs.
Des histoires étranges de l'ère numérique.
Le Dark Web. Plus de 2,5 millions de personnes y accèdent de façon anonyme chaque jour. Des milliers de transactions illégales s'exécutent chaque heure.
Entre 2014 et 2017, un populaire vendeur sur le Dark Web appelé Alpracking était l'un des nombreux à vendre à gros volume de fausses pilules de Xanax.
Cependant, personne ne savait qui était derrière l'opération Alpracking. Mais cela a changé lorsque des voleurs ont organisé une invasion de domicile à Montréal.
Suivez-nous dans la troublante histoire d'Alexandre Baudry, alias Alpracking, le roi du Xanax québécois. Sébastien Lévesque, comment vas-tu aujourd'hui?
Ça va bien et toi, Émile Gauthier?
Ça va très bien aussi parce qu'on a une histoire aujourd'hui qui nous replonge dans les méandres du Dark Web.
Oui.
Puis on se rend compte que les Québécois, on n'est pas pire là-dedans dans le Dark Web. On a quelques criminels notoires qui se sont illustrés sur le web profond.
Oui.
On l'a vu dans le passé, on en a parlé avec Alexandre Caz, entre autres. Mais là, on va plonger dans le monde des revendeurs de stupéfiants,
oui,
mais aussi ceux qui fabriquent des fausses pilules de différents médicaments,
oui,
ou de drogues qui sont prescrites comme le Xanax, comme l'Oxy, comme autres, parce que c'est un gros marché. Puis moi, j'ignorais en fait qu'on avait des stars québécoises du dark web dans le monde des drogues de prescription.
Ah oui, on en a beaucoup, hein. Même dans l'after show, on va parler d'un autre cas québécois.
Oui.
Qui s'appelle Dr. Xanax.
Mm-hmm.
Puis même dans les recherches que j'ai fait pour l'épisode, je me suis rendu compte qu'il y a plein d'arrestations de vendeurs québécois qui vendent sur le dark web, mais pas des quantités qui méritent nécessairement une nouvelle,
oui,
ou qui vont attirer l'attention. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a énormément de condamnations. Souvent, c'est des petites peines et ils recommencent. Il recommence tout le temps, comme Dr. Xanax. Lui, il a été déjà arrêté par le passé. Il a été réarrêté en 2021.
C'est trop payant. Hein?
Je pense que c'est ça.
C'est tellement payant. Puis au Canada, je pense qu'on est beaucoup plus lousse au niveau de la justice,
ouais,
versus aux États-Unis, où ça, dans certains États, ça peut être prison à vie, ou certains autres pays même.
Oui, exactement.
Donc j'ai l'impression que c'est peut-être un incitatif, mais on aura la chance d'en reparler,
oui,
dans cet épisode-là. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'on boit?
eau on boit cette semaine? En fait, ça nous vient de Guillaume Vigne qui nous a offert via notre site web une tournée de bière.
Merci Guillaume.
Oui, et il nous offre, c'est une exclusivité de la brasserie Le Castor en fait.
Qu'on aime bien.
Oui, c'est l'argousier coupé. C'est une bière fermentée sur des baies d'argousier, puis qui a été barriquée en fût de chêne pendant 12 mois. 6,3% d'alcool. C'est une excellente petite bière, je trouve rafraîchissante, puis le goût de baie est bien présent aussi,
oui.
ça crée une belle amertume.
J'adore. Un peu surette aussi,
oui, hein,
on aime bien, ça change des IPA qu'on boit
oui.
à chaque fois,
exact.
Merci Guillaume. On a aussi un shout-out qui nous vient là, d'une review 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci à ceux qui continuent de nous donner des reviews 5 étoiles, c'est toujours grandement apprécié, et c'est une review qui nous vient d'un nom imprononçable, Hick. En gros, là. Mais c'est une review en anglais.
Oui.
Et je vais vous la lire telle qu'elle. Improved my listening in French. I've been listening to the podcast since 2018, and I can say that Distortion helped me so much to improve my listening skills in French since arriving in Quebec. In the beginning, I had a bit of a hard time and needed to pause many times, but now I can understand almost everything. Thank you, Emile and Seb, for the wonderful content. You guys should be financed by the government. Haha.
C'est une très bonne idée, ça,
qu'on
se fasse une belle petite subvention là, pour...
Pour les apprendre. Podcasts de True Crime.
Ben oui, exact. Là. Ils veulent que les immigrants apprennent le français vite, vite, vite. Donc, ça pourrait être une bonne tactique. Mais sincèrement, merci à toi. Ça fait chaud au cœur, on dirait.
C'est
le fun de participer à l'apprentissage d'une langue seconde pour quelqu'un. Donc,
absolument.
Merci.
On vous rappelle que si vous êtes abonné Patreon, vous allez avoir droit à un after show, encore une fois, cette fois-ci.
Oui.
On va parler de Dr. Xanax, un autre criminel notoire québécois fabricant de fausses drogues de prescription. Puis on voulait remercier aussi tous nos nouveaux membres Patreon. Sincèrement, vous êtes très nombreux cette année. Shout out à vous, une chance que vous êtes là.
Oui.
Pour ceux qui rejoignent la communauté Patreon, sachez qu'il y a tout plein d'épisodes bonus qui vous attendent, des after-shows. Puis avec le temps, on a amélioré nos after-shows. Au départ, je pense, Seb, qu'on était plus en réaction face à l'épisode.
Oui, exact.
Mais là, depuis la dernière saison, on amène carrément des nouveaux sujets la plupart du temps. Donc, il y a du contenu, il y a des épisodes secrets qui sont là. Il y a des épisodes bonus aussi, des mini-disto bonus. Donc, rendez-vous sur Patreon. Shout-out à tous nos membres et shout-out à nos auditeurs aussi qui nous écoutent sur toutes les autres plateformes.
Oui.
Ça fait chaud au cœur. À ceux qui suivent nos Disto News sur TikTok aussi, vous êtes plus de 5000 maintenant. Donc, merci à la réponse, à la grande réponse face à nos Disto News. On aime bien ça en faire. Et puis, on vous rappelle aussi que si vous voulez toujours plus de distorsion, nos deux livres sont disponibles en format audio sur toutes les plateformes de livres audio finalement, dont Audible.
Exactement.
Yeah! Et je pense qu'on a tout dit, mon cher Seb. Est-ce qu'on est prêt à se lancer dans l'histoire abracadabrante de Alpracking?
Oui, madame!
C'est parti! Maintenant.
Émile, à la fin des années 90, en pleine effervescence du web et de la bulle des dot-com, là, je sais pas si tu te rappelles, là, c'était une belle époque, le besoin d'anonymat en ligne se faisait déjà sentir, et c'est à cette époque que deux concepts d'anonymat en ligne importants dans l'histoire se sont créés parallèlement.
Parce que là, bien sûr, on va vous mettre en contexte un peu, on va vous parler un peu de l'histoire aussi du Dark Web, de comment ça fonctionne. On en a parlé souvent à Distorsion, mais on va faire quand même un petit retour.
Oui.
On va parler de crypto aussi, parce que c'est nécessaire dans le monde des transactions sur le Dark Web. Donc, on va vous prendre par la main tranquillement et vous amener vers l'histoire principale.
Exactement. Tout d'abord, je vais vous parler de l'Irlandais Ian Clark, lui qui était étudiant à l'Université d'Édimbourg lorsqu'il a conceptualisé un des premiers réseaux qui allait exister sur le Dark Web à l'été 99 avec son projet de thèse. Le projet appelé Freenet avait des intentions nobles et avait l'intention de créer un système de stockage et de récupération d'informations décentralisées et distribuées, ce qui est un peu le Dark Web. Clark visait à créer une nouvelle forme, une nouvelle façon en fait de communiquer et de partager des fichiers de façon anonyme en ligne. Il faut savoir qu'il a obtenu B pour sa thèse, mais que par la suite, il a mis ses travaux à la disposition de la communauté et a débuté le développement de la technologie. Ian Clark a été choisi comme l'un des 100 premiers innovateurs en 2003 par le magazine Technology Review du célèbre MIT.
Pas si mal.
Oui, quand même. Également, dans les mêmes années, deux organismes de recherche du département américain de la Défense ont déployé des efforts pour développer un réseau anonymisé et crypté qui protégerait les communications sensibles des espions américains. Ce réseau secret ne serait ni connu ni accessible aux internautes ordinaires. Et bien que l'intention initiale n'ait jamais été pleinement réalisée, certains des chercheurs ont vu une opportunité intéressante, c'est-à-dire lancer une organisation à but non lucratif axée sur l'anonymat pour les militants des droits de l'homme et de la vie privée. Et c'est ainsi qu'est né le réseau TOR, qu'on connaît bien, qui est l'abréviation de « The Onion Router », que lui compte tenu de nombreuses couches de cryptage qui protègent les informations transmises. C'est pour ça qu'on l'appelle en oignon. Comme un oignon, on enlève plusieurs pelures.
Oui.
Donc, pour l'information, c'est comme ça qu'elle se transmet. Ce qui est intéressant, c'est encore une fois, le gouvernement américain a créé l'Internet. C'est lui qui a créé, d'une certaine façon, le Dark Web. Donc, c'est assez... c'est fou pareil. Hein?
Comme Dieu a créé l'enfer et le paradis.
Exact. Et distorsion. Tor vit en marge d'Internet et se sert de technologies sous-jacentes au Dark Web avec une collection de sites Web cachés qu'on sait qui sont inaccessibles via un navigateur ordinaire, mais surtout que les sites Web sont non indexés par les moteurs de recherche comme Google. Hein. Le Dark Web, c'est un gros champ libre. Le navigateur Tor, qui est disponible en téléchargement gratuit sur toutes les plateformes, est tout ce dont vous avez besoin en fait pour déverrouiller des sites Web sur le Dark Web, et en particulier des point onion pour Tor.
Ben oui, parce qu'on a l'impression souvent que quand on va sur le Dark Web, tout de suite, on est exposé à de la pédopornographie, à de la drogue, à des armes à feu, tout ça. Mais non, à l'instant où vous êtes dans le réseau de Tor, vous êtes sur le Dark Web.
Oui, exact.
Et être sur Tor, c'est totalement sain, en fait. Vous n'êtes pas exposé à aucun danger
non,
en soi.
Non, non, exact.
Tant que vous n'allez pas sur des sites qui sont évidemment...
illégaux. Parce qu'il y en a des sites légaux, je vais y revenir, là, vous allez voir, c'est pas juste utilisé pour justement de la malveillance. Là.
Ben oui. Aller sur le Dark Web en soi, c'est pas illégal.
Non, bref. Exactement. Non, t'as absolument raison. Puis il y a des pays qui n'ont pas le choix d'y aller pour accéder à de l'information parce que leur gouvernement bloque aussi des choses. Pour ce qui est du réseau Freenet de Ian Clark, que je vous parlais au début, il existe toujours et est un logiciel libre qui vous permet de façon anonyme de partager des fichiers, de parcourir et de publier des sites free. En fait, des sites free, c'est des sites qui sont seulement accessibles par Freenet. Mais pour être franc, j'en ai jamais vu. Ça permet de clavarder sur des forums, le tout sans craindre la censure. Freenet est décentralisé afin de le rendre moins vulnérable aux attaques. Et s'il est utilisé en mode réseau invisible, enfin... ce qui implique que les utilisateurs se connectent seulement à leurs amis, il est très difficile à détecter. Par contre, selon plusieurs experts, le réseau Freenet sert plus d'un espace de stockage qu'autre chose et souvent son contenu est illégal. Et on peut se douter quel genre de contenu s'y propage. Mais de nombreux autres fichiers sont stockés par des personnes qui profitent de cette fonctionnalité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le réseau Freenet, quand tu fais partie de ça, tu es dans un genre de réseau peer-to-peer, puis tout le monde fait partie du stockage. Mais toi, tu peux pas accéder aux fichiers qui sont stockés sur ton ordinateur par les autres, mais tout le monde profite, c'est comme un gros cloud, gratuitement. Puis c'est pour ça que certaines personnes, là, c'est assez niché, là, mais l'utilisent. Aussi, il n'est ni anonyme ni particulièrement sécurisé. Là, faut pas oublier ça. Là. Donc, c'est un des obstacles, mais c'est dans les trois piliers du Dark Web, Freenet était là. Je devais vous en parler. C'est un des premiers. À défaut, Freenet, contrairement à Tor, ne permet pas de naviguer sur le web de surface. Parce que sur Tor, vous pouvez, comme on disait, aller sur n'importe quel site web. Ça va juste être un petit peu plus lent parce qu'il faut qu'il traverse plus de chemin, disons.
Oui, c'est quand même assez lent. La navigation, oui. On se croirait de retour en 97. Là.
Oui, exact. Je vais vous l'expliquer un petit peu pourquoi. Pour terminer, Émile, ce petit volet de l'histoire du Dark Web, je peux pas passer sous silence la troisième plateforme qui est présente sur le Dark Web, qui est plus récente, hein, c'est la I2P pour Invisible Internet Project, qui est plus sécurisée, mais étant donné qu'elle compte moins d'utilisateurs que Tor, donc on est moins anonyme, hein, parce que le Dark Web, là, même si on dit que t'es anonyme, reste que on peut te retracer. Puis moins il y a de monde, ben plus c'est facile de te retracer. C'est un peu ça que je veux dire par là. I2P a un modèle similaire à Tor, sauf que chaque utilisateur agit comme un relais. Et sans entrer dans les détails techniques, I2P, lui, utilise plutôt le protocole Garlic, rooting, en fait, qui est une variante de tare.
Donc, une gousse d'ail au lieu d'être un oignon.
Exact. Puis, quand je vous dis que c'est des relais, une gousse d'ail à l'intérieur, il y a plein de petites gousses. Ben, c'est ça, les relais, en fait. Fait que tout le monde est une petite gousse au lieu d'être un oignon simplement. Puis, il y a quand même des pleurs par-dessus l'air. Donc, c'est ça la nuance avec la technologie. Puis, j'aime bien comment qu'ils imagent les noms des protocoles, en fait.
C'est comme si tu ajoutais une couche d'horizontalité, en fait, sur quelque chose qui est très horizontal avec les pleurs d'oignons.
Exact, exactement. Autre chose, Émile, TAR et I2P ont également des serveurs cachés au sein de leur infrastructure. Cela permet donc des connexions où ni le client ni le serveur connaissent l'identité de l'autre. Cela signifie que le serveur est introuvable d'une certaine façon. Donc, le contenu du serveur est donc très difficile à détruire ou à mettre hors ligne. D'où le pourquoi que les marchés, les markets, sont plus difficiles à fermer par les autorités. Ici, je dis difficile, mais jamais impossible.
Non, ils ferment régulièrement, d'ailleurs.
Ah oui. Puis je trouve qu'ils sont meilleurs qu'avant. Et veut pas, ils ont appris des techniques aussi. Là. Même si les vendeurs sur le dark web, eux aussi ont raffiné leurs techniques, reste que... Les policiers aussi, puis ils surveillent. Là, t'sais, fait que c'est rendu quasiment pas simple, là, mais à la quantité qu'ils arrêtent, là, que Europol aussi là-dedans, puis là, on parle juste de l'Amérique du Nord, mais partout dans le monde aussi, là, des saisies à chaque jour, il y en a tout le temps. Là, donc, je trouve que c'est un jeu très dangereux. En 2022, le Dark Web compte 2,5 millions d'utilisateurs actifs quotidiens qui accèdent à des points Onion avec le logiciel Tor. Aujourd'hui, de nombreuses organisations maintiennent un site web caché sur Tor, y compris presque tous les grands journaux, là, le New York Times et tout ça, mais aussi Facebook, la CIA aussi. Donc, il n'y a pas juste des drogues et des armes, là, comme on disait. Là, les gros médias américains sont là. Même le Journal de Montréal ou de Québec, si tu veux leur envoyer de l'info confidentielle, tu peux passer par Tor pour leur envoyer, pour être sûr que personne ne puisse retrouver ton adresse IP ou quoi que ce soit, là, juste pour vous dire. Là. Donc, pourquoi je te parle de Dark Web, Émile, c'est que justement l'histoire d'aujourd'hui tourne autour d'un trafiquant québécois, hein, comme on parlait, qui a utilisé le Dark Web pour vendre des produits illégaux et selon plusieurs, il serait en partie responsable de l'épidémie de Xanax qui a été très présente chez les jeunes aux États-Unis il y a quelques années. Et ça, c'est quand même très problématique. Sans parler qu'il utilisait également, puis c'est là que c'est veg, là, c'est qu'il utilisait également le web de surface. Donc, le web traditionnel pour étaler ses exploits et donner des conseils aux gens.
Ben oui, c'est souvent ça, hein, le besoin d'attention qui trahit ce genre de criminel-là.
Oui, exact. Donc, voici l'histoire du Québécois Alexandre Baudry, alias Alpraking. Nous sommes le 12 mai 2022 et on se retrouve dans un luxueux condo au 29e étage d'une tour située sur la rue de la Rotonde à l'île des Sœurs, à Montréal. Il est autour de 10 heures le matin et le couple, Alexandre Baudry, 31 ans, et sa conjointe, vaguent à leurs occupations lorsque l'on sonne à la porte. Alexandre demande via l'intercom qui est là, et c'est un livreur de colis qui mentionne qu'il doit absolument lui livrer un paquet en main propre, car il exige une signature. Il débarre la porte de l'immeuble à distance. Quelques minutes plus tard, en ouvrant la porte de son condo, Alexandre remarque rapidement qu'il y a deux hommes masqués et armés devant lui et il est immédiatement frappé en plein visage. Le premier homme retient Alexandre pendant que le second s'assure de maîtriser sa conjointe. Les deux assaillants ligotent le couple. Alexandre demande ce qu'il se passe et on lui requiert les mots de passe de ses portefeuilles de crypto-monnaie. Il refuse catégoriquement. On le frappe à la tête et au visage à plusieurs reprises pour tenter de le faire changer d'avis. Il refuse toujours. On le refrappe au visage. Durant une seconde d'inattention des assaillants, Alexandre réussit à lui prendre son arme à feu des mains, mais cela ne fait qu'envenimer la situation et les coups arrivent de partout. Mais là, rassurez-vous, là, les coups de pied, coups de poing, là, pas les coups de feu. Malgré l'attaque, Alexandre réussit à s'esquiver et se réfugie dans une chambre pour appeler du secours. Les assaillants quittent rapidement l'appartement bredouille et sans s'en prendre heureusement à sa conjointe, et s'en tirer avec l'arme à feu.
Mais c'est quand même une attaque qui se termine bien, dans le sens que c'est rare, en fait, que dans une situation comme ça, quelqu'un réussit à s'en sortir aussi facilement, je dirais.
C'est vrai, pareil. Il est magané, là. Je sais pas si tu te rappelles la photo sur la civière, mais oui, t'as raison, parce que les deux personnes qui l'ont attaqué...
Il aurait pu s'en prendre aussi physiquement à sa blonde. T'sais, heureusement, ils l'ont pas frappé rien. C'est lui qui visait.
Ouais.
Il aurait pu utiliser l'arme à feu aussi. D'après moi, c'était des jeunes... audacieux et téméraires là, qui ont voulu essayer quelque chose par la force. Là. Puis on l'a jamais vu, on sait pas c'est qui. Là, je sais pas quelle taille ces gens-là avaient aussi, dans le sens que souvent ça peut être persuasif aussi. Là, mais avoir le nombre d'échymoses et les gros bandages, il a dû manger beaucoup de coups. Mais il a, c'est ça, il a réussi, comme tu dis, il a réussi quand même à s'en sortir. Là.
Mais à connaître le montant qu'il y avait dans son portefeuille de crypto-monnaie, probablement que j'aurais encaissé quelques coups moi aussi. Là.
Oui, ben c'est ça. Il devait se dire à chaque fois qu'il mangeait un coup que ça devait valoir la peine. Mais on y reviendra. Mais en fait, qui est ce Alexandre Baudry? T'sais, pourquoi il a été visé par cette attaque? Puis pour combien y a-t-il de crypto-monnaie là, dans son portefeuille? Avant d'aller plus loin, justement, Émile, explique-nous comment ça fonctionne un portefeuille de crypto-monnaie.
Oui, bien sûr. Je ne vous parlerai pas trop du mien parce qu'il ne vaut pas grand-chose au moment où on se parle. On sait que les cryptos ont eu une chute importante cette année. Mais un portefeuille de crypto-monnaie ou un crypto-wallet, comme on appelle, là, c'est un support matériel ou immatériel, ça peut être virtuel, qui permet de stocker, d'envoyer et de recevoir des crypto-monnaies. Les portefeuilles de crypto interagissent avec les blockchains, selon la monnaie en question, pour authentifier les différentes transactions, vu que les devises numériques ne sont pas là, des monnaies physiques. Voilà. Donc, ça utilise le pouvoir de la blockchain, évidemment. Il est important de savoir que chaque crypto-devise dispose d'un système particulier qui ne communique pas avec d'autres. Donc, évidemment, que lorsque tu achètes de l'Ethereum, par exemple, ben, tu es sur la blockchain d'Ethereum et qui n'a rien à voir avec celle du Bitcoin, par exemple. Par exemple, justement, s'il est impossible d'envoyer des Bitcoins à une adresse de portefeuille Ethereum, donc d'envoyer des Ethers à une autre adresse de portefeuille, donc Bitcoin. Ceci dit, tu peux dans le même portefeuille avoir de l'Ethereum et des Bitcoins.
Exact, en fait, exact. Là.
Raison pour laquelle il faut créer un nouveau portefeuille selon ses besoins. Il fonctionne exactement comme un portefeuille normal qu'on a dans sa poche, là, ou encore comme un compte en banque. Il est composé d'une clé publique et d'une clé privée. La clé publique est une adresse électronique composée d'une série de chiffres et de lettres qui correspond à l'adresse du portefeuille sur la blockchain qui permet d'envoyer ou de recevoir des paiements provenant d'autres portefeuilles. Tu pourrais, Seb, je pourrais te donner le numéro de mon wallet, puis tu pourrais aller déposer des cryptos dedans.
Exact.
Tu pourrais pas en retirer, par contre.
Non.
La clé privée du portefeuille, tant qu'à elle, est considérée comme votre mot de passe. Cette clé-là permet d'accéder aux fonds conservés dans la blockchain et de faire des transactions sur votre portefeuille. Cette clé de sécurité doit être gardée secrète et ne doit jamais être communiquée. Si on la perd, ben, et puis qu'on s'en rappelle pas, eh bien,
t'es foutu.
Oui, exactement. Puis, en fait, c'est en plus, les codes, c'est souvent une séquence de 12 mots choisis qui sont placés d'une manière un peu aléatoire. Donc, c'est quand même difficile à retenir. Là. Ça peut pas être « mon chat s'appelle Mitaine ».
Non, exact. Non,
c'est plus complexe que ça.
C'est voulu. Là.
Exact. Cependant, les adresses de portefeuille, eux, peuvent être connues. C'est-à-dire que si les policiers apprennent que, ou les enquêteurs de la CIA apprennent qu'il y a eu des transactions au niveau du wallet numéro 095, etc., ben, ils peuvent le surveiller, ce portefeuille-là.
Oui, exact.
Donc, c'est là les limites de l'anonymat avec la crypto. C'est que c'est difficile de connaître le nom de la personne derrière et où vont d'où viennent les fonds, en fait, qu'est-ce que tu as acheté avec ou qu'est-ce que tu t'es fait transférer. Mais par contre, c'est facile pour les autorités de mettre un flag sur ton compte comme un compte bancaire. Puis quand il y a une transaction qui a lieu, ben on agit en conséquence.
Oui, exact, parce que c'est public, hein, la blockchain, ben, dans le sens, il n'y a pas un registre en ligne, là, mais comme tu dis, c'est public, cette information-là, c'est fait pour être transparent comme ça.
Exact.
Mais il y a des mécanismes, là, puis on ne rentrera pas dans ces détails-là, de blockchain comme temporaire et tout ça, pour un peu brouiller les pistes là, de transfert d'argent, puis que là, tu peux un peu brouiller les pistes là, des autorités. Là. Mais c'est un autre sujet.
Il existe différents types de portefeuilles. Il y a le portefeuille mobile, le desktop wallet qu'on va garder, par exemple, qui peut être plugué sur Chrome ou autre. Il y a le wallet en ligne, le wallet matériel ou physique, c'est-à-dire que tu peux vraiment avoir un genre de clé USB en métallique. Là, il y en a qui ont des super beaux looks. Puis c'est là-dessus que sont stockés tes cryptos. Puis tu as aussi le principe de hot wallet ou le cold wallet. Bon, j'entrerai pas trop dans les détails, mais le hot wallet, c'est quelque chose qui est, par exemple, placé un peu comme des actions, c'est que ton portefeuille est sur le site de Coinbase ou de Binance, par exemple, celui-ci varie selon les fluctuations du marché de la monnaie, tandis que ton cold wallet, c'est comme si tu prenais cet argent-là, que tu le mettais dans tes poches, donc lui ne fluctue plus, il est dans tes poches, tant que tu le remets pas sur les marchés, il reste stable, en fait. Si tu as un bitcoin, tu as un bitcoin dans ta poche.
T'sais. C'est un peu comme une action, en fait, tant que tu l'as pas retiré.
Tant que tu l'as pas mis dans ton portefeuille. Exactement. Bon, petit aparté sur les cryptos, on revient à notre histoire. Suite à l'appel au 911 d'Alexandre, les policiers et les ambulanciers arrivent sur les lieux. Malgré les blessures, il est en mesure d'être interrogé, mais il est quand même assez magané, comme tu disais, Seb. Sa conjointe, en état de choc, est tout aussi en mesure de coopérer. Cependant, Alexandre est tout de même amoché et doit être soigné à l'hôpital d'urgence. Lorsqu'il quitta la tour à condo sur une civière, sa tête était couverte de bandages et l'on pouvait distinguer plusieurs blessures comme des ecchymoses, des coupures et de l'enflure. Les policiers ont passé une bonne partie de la journée au 29e étage afin d'expertiser la scène de crime, mais aussi le corridor menant au condo et les ascenseurs par où sont passés les assaillants. On peut aussi apercevoir sur la photo qui apparaît d'Alexandre dans les médias que sur la civière qu'il transportait, il portait une chaîne avec un médaillon au cou assez particulier. On y reviendra. Parlons un peu plus en détail de son arrestation en 2022. Nous sommes maintenant le 30 juin 2022 et il s'est écoulé 59 jours depuis l'invasion à domicile chez Alexandre. Donc là, jusqu'à présent, c'est une victime, là, Alexandre, dans cette histoire-là.
Exact.
Bonne nouvelle, il reçoit un appel des policiers de Montréal qui lui donne rendez-vous chez lui afin de lui présenter des photos de suspects potentiels. Cependant, une fois la rencontre terminée, il est immédiatement mis en état d'arrestation par des agents de la Gendarmerie royale du Canada, ça c'est un peu le FBI canadien pour nos auditeurs d'ailleurs dans le monde. Ces agents-là avaient un mandat d'arrestation contre lui de la part des autorités américaines. Il est soupçonné, imaginez-vous donc, par la DEA, le Drug Enforcement Administration, d'être un méga trafiquant qui aurait vendu des millions de comprimés de Xanax de contrebande sur le Dark Web, entre autres sous les alias de Alpraking, Quantic ou encore Benzochems. Baudry aurait été un acteur si important dans la vente de Xanax qu'un des plus grands revendeurs de cette drogue aux États-Unis avait accepté de travailler sous ses ordres et de lui verser un pourcentage de ses profits. Ce subalterne pouvait vendre 1 million de comprimés chaque mois, imaginez-vous ça.
C'est beaucoup de pilules.
Selon la DEA, ses associés et lui s'approvisionnaient de fournisseurs en Chine qui, justement, achetaient des produits génériques de compagnies pharmaceutiques ou de contrebandiers. Là. La drogue était parfois livrée directement à ceux qui passaient des commandes sur le web obscur, sur le dark web. Dans d'autres cas, le Xanax contrefait aurait été livré en vrac à des complices au Canada et aux États-Unis pour ensuite être revendu en plus petite quantité, là, plus au niveau de la rue. Le mandat des agents stipulait qu'il devait se trouver chez lui pour que les autorités puissent procéder à son arrestation et les autorités ont fait preuve d'astuce pour s'en assurer. On sait que c'est toujours tricky ça, le moment de l'arrestation. Souvent, on veut l'attraper en flagrant délit.
Oui, exactement.
Ça a été le cas de Russell Brick, le fondateur de Silk Road, où les agents ont dû attendre qu'il soit live sur son laptop devant Silk Road avec son ordinateur déverrouillé pour l'arrêter. Donc, c'est très stratégique.
C'est vrai, même Alexandre Caz, c'était un peu le même scénario. Il attendait que son ordinateur soit ouvert devant lui.
Leur crainte était qu'il décide de fuir la justice, car il en avait déjà évoqué l'idée dans ses communications écrites sur le web, car il devait être prévenu le lendemain, soit le 1er juillet, par sa banque en Suisse, que les autorités américaines s'intéressaient à ses comptes.
Fou, hein, ça? Ça, moi, j'ai toujours un malaise éthique, tu sais... par rapport à ça, dans le sens que, tu sais, je comprends que c'est un client pour eux, mais comment dire? Ils l'avisent, mais on s'entend-tu que c'est pas correct, là, tu sais, dans le sens que c'est quand même illégal, là,
c'est de l'argent. C'est débattable,
oui,
c'est sûr.
Je le sais que c'est...
Oui. C'est sûr que pour certaines personnes, ça les arrange, ah, oui. beaucoup d'avoir un client comme ça, puis vice-versa, d'avoir une banque comme ça qui garde le silence.
Ouais, exact. Hein.
Bon, ça prend le tout pour faire un monde. Est-ce qu'il existe un lien entre son invasion à domicile et son arrestation, Seb? C'est de ça dont on va discuter, là. En fait, on vous parlait un peu plus tôt du pendentif qu'il avait autour du cou, là, sur sa photo dans les médias, lorsqu'il était sur une civière. C'est drôle, ça. Eh bien, imaginez-vous donc que le symbole utilisé par l'alias Alpraking sur le web pour vendre du Xanax de contrebande est le même que le médaillon dans le cou d'Alexandre. Est-ce un hasard? Pas aux yeux des autorités américaines. Lui qui a réussi à leur échapper pendant des années a été trahi par son médaillon.
C'est fou, hein?
C'est hallucinant, ça.
Vraiment.
Mais comment est-ce que les autorités en sont venues à faire le lien avec la photo d'Alexandre sur une civière, Alpraking et le pendentif? C'est que bien qu'il semblait mener une vie rangée, il était tout de même sous surveillance des autorités, car il a déjà été condamné en 2015 pour trafic de stupéfiants.
En effet, comme tu disais, Émile, avant le music break, lorsque l'on recherche un peu sur lui, on se rend compte qu'il a déjà été impliqué dans le trafic de stupéfiants et a même déjà été arrêté le 20 novembre 2013 à la suite d'une enquête de 7 mois impliquant la GRC, l'Agence des services frontaliers du Canada et le service de police de la ville de Longueuil. Donc, il y a beaucoup de monde d'impliqué. C'est le 20 février 2014, alors qu'il était âgé de 23 ans et habitant à Longueuil, qu'Alexandre Baudry comparait au palais de justice de Longueuil relativement au démantèlement d'un laboratoire clandestin situé en Montérégie, où il fabriquait une impressionnante quantité de stéroïdes et de médicaments contrefaits.
Un peu un genre de Walter White, là, lui.
Ah, oh, mon Dieu, ben oui, c'est vrai. Je sais même pas pourquoi j'ai pas fait ce lien-là. Ben oui, t'as raison, mais lui, c'était pas pour payer son cancer. Il fait face à des accusations de possession et de production de substances contrôlées en vue d'en faire le trafic. Le laboratoire clandestin était situé dans un entrepôt loué du quartier industriel de Longueuil. Les policiers y ont notamment saisi plus de 22 000 comprimés de stéroïdes, des stéroïdes injectables et des produits qui auraient pu servir à fabriquer plus de 280 000 comprimés contrefaits d'un médicament contre le dysfonctionnement érectile. On n'a pas besoin de le nommer. Les enquêteurs y ont effectué au total 2 perquisitions, ce qui leur a permis de saisir également plus de 15 000 autres comprimés de médicaments contrefaits, 2 presses à comprimer, donc des machines pour faire les pilules, et une machine servant à enrober les comprimés là, pour que ça se tienne, là, la poudre, pour que quand vous l'ayez en main, ça ne s'égrène pas tout, là. Dans un communiqué diffusé par la GRC à l'époque, il soulignait que la qualité des emballages et l'apparence des produits contrefaits étaient à s'y méprendre. Les sceaux scellés et les étiquettes laissaient croire à l'utilisateur que les produits étaient fiables et de haute qualité, ce qui n'était pas du tout le cas. Le contenu réel des produits est inconnu, ce qui pose un véritable danger pour le consommateur, c'est toujours le risque d'acheter en ligne comme ça. D'autant plus que l'insalubrité des lieux laisse croire à des risques d'infection élevés dans le cas des produits injectables, parce que c'est certain qu'eux, ils n'ont pas les mêmes normes là, qu'une compagnie pharmaceutique. Là,
ils n'ont aucune norme,
en fait. Non, exact. C'est...
Sauf que s'il y a trop de dommages auprès de la clientèle, ça se peut que les gens au-dessus de lui décident d'arrêter de faire du business avec.
Oui, exact. Mais on dirait que des fois, ils s'en soucient pas trop, mais t'as raison.
Oui, ça, c'est sûr.
À la quantité qu'ils fabriquent. Écoutez ça, sa peine, là, c'est fou. Il écopa finalement en 2015 de 18 mois de prison à domicile pour production et trafic de stéroïdes et de médicaments contrefaits. Ça n'a pas de bon sens.
C'est peu.
À domicile, tu sais, je veux dire, t'as tes restrictions, là, des choses comme ça, mais quand même, là, tu peux écouter ton Netflix puis aller sur Internet. Là,
c'est chill.
C'est quand même. Là. Et maintenant qu'il est derrière les barreaux, les procureurs américains veulent absolument qu'il reste là actuellement là, afin d'éviter qu'il prenne la fuite ou qu'il détruise de la preuve. On y reviendra. Donc, c'est pour ça que les autorités américaines actuellement sont très, très stressées puis ils veulent absolument qu'il soit enfermé et qu'il ne soit pas libéré. On va vous en parler un peu plus loin, parce que pour eux, même quand il était en prison à domicile, il continuait de faire son trafic en ligne. Donc, il n'y a rien qui l'empêchait de ça. Il n'était même pas surveillé. Je me demande même si dans ces conditions, il y avait une interdiction en fait d'utiliser Internet. J'ai l'impression que non. T'sais, fait que c'est même à ça, il faut qu'il pogne, mais c'est là que là-dessus, je trouve que le Canada est vraiment peu sévère. Là. Tu sais, 18 mois, c'est un an et demi. Là. C'est rien. Là.
Puis je me demande si on comparait ça à quelqu'un qui vendait de la coke au motard. Tu sais, je sais pas si la perception un peu de genre, c'est un crypto kid sur le dark web ces trucs, il est pas dangereux. Tu sais, je sais pas s'il y a une différence de perception, en fait.
Ça se peut, hein. Puis même, tu sais, c'est 2013, l'arrestation 2013, le jugement 2015, c'est quasiment une autre époque, entre guillemets, là, c'est il y a 7 ans.
Ouais.
Tu sais, je ne sais pas si le jugement a changé par rapport à ça, mais puis j'ai l'impression qu'avec la pression américaine aussi, mais actuellement, les Américains, ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent des demandes d'extradition dès que le trafiquant a fait quelque chose sur leur territoire, puis la plupart du temps, ils le font tous parce que c'est un gros marché, donc on dirait que c'est comme ça qu'ils sont réellement punis, comme si le Canada s'en lavait un peu les mains.
C'est la maternelle de la prison, puis après ça, quand on le fait, on passe aux vraies choses.
Exact, c'est un peu particulier. Mais qui était Al Pracking, selon les autorités? Pendant des années, l'identité du roi de la contrefaçon de Xanax, Al Pracking, était un mystère pour tous. Il a fourni l'Amérique du Nord de fausses pilules de Xanax approximativement de 2014 à 2017. Il n'était pas le seul à cette époque. Les gros joueurs étaient Dr. Xanax, Theory of Harmony, T-O-T-O-H, il y avait East Coast Barbarian, ECB, il y avait UK Benzos, il y avait Fast Donut, il y avait Lit Solutions aussi également. Ça, c'est tous les surnoms, les nicknames là, que eux utilisaient sur le dark web, mais qui ont été répertoriés par les autorités américaines comme des très, très gros joueurs de l'époque. Cependant, Al Pracking était le plus puissant de toute cette gang-là et c'était le seul parmi les personnes que je viens de vous nommer qui avait sa propre place de marché sur le dark web comme Alphabet ou Silk Road. Donc, c'est là aussi qu'il se distinguait. Là. Il y avait beaucoup d'ambition.
Il y avait sa propre boutique, quoi, propre sous-section.
Oui, exact. Son marché, en fait, était...
Comme un revendeur Amazon validé.
En fait, il y avait même son propre marché qui s'appelait Al Pracking. Tout le site web était à lui. Il était hébergé au Al Pracking, OEKTRYS.onion à l'époque. Et c'était un site... comme toutes les autres, là, comme Alphabet et tout ça, là, un market assez traditionnel. Également, la DI le soupçonne d'avoir utilisé différents pseudonymes tels que Benzochem, qu'on nous a nommé tantôt, Quantic, mais il y a Quantic Xanax, il y a Montfort, il y a Exilius et Evolix. Puis Evolix, en fait, si vous allez au registraire des entreprises, il y a encore une société qui s'appelle...
Il l'a enregistré.
Oui, depuis 2014, donc un peu avant d'être en prison. En fait, ça s'appelle Marketing Evolix ou Evolix Marketing. Puis quand vous inscrivez votre entreprise au registre des entreprises, faut vous donner pas la mission, mais ce que vous faites comme travail. Puis lui, c'est de vendre des produits virtuels en ligne. Donc, c'est pas totalement faux. Et ça devient un peu sa coquille parce que vers la fin de l'épisode, on va vous parler un peu de son manuel. Il a écrit un manuel. Il nous donne justement des conseils de ce type-là. Mais bref, Evolix, ça a été sa coquille au registraire des entreprises. Selon je vous parlais de son point Onion, à l'époque, il était répertorié comme une des meilleures places de marché sur le dark web et on le décrivait comme suit. Alpracking est une boutique établie au Canada, donc déjà là, on savait que c'était canadien. Ils vendent des comprimés de Xanax et des comprimés de Etisolam. Il faut savoir que sur les photos des produits sur son site, il mettait toujours aussi son logo qui était similaire à son pendentif en fait. Pourquoi selon vous, Alpracking a choisi ce nom-là? En fait, le nom du médicament autour de la marque Xanax est Alprazolam. Et pour info, ce médicament est un anxiolytique, hein, un tranquillisant de la famille des benzodiazépines. Et les benzodiazépines sont des médicaments qui ralentissent l'activité cérébrale. Donc, ils produisent ainsi un effet relaxant ou de somnolence qui peut être utilisé pour traiter les personnes qui ont des troubles anxieux, hein, comme l'anxiété généralisée, des crises d'angoisse, etc. Et même dans le cadre d'un sevrage alcoolique, ça, je ne savais pas qu'on pouvait utiliser ça pour ça. Bref, donc, le roi du Alprazolam. Donc, c'est pour ça qu'il s'est nommé Alpracking, en fait. Là, je vais vous parler un petit peu de sa présence sur Reddit, hein, parce que il se vantait de ses exploits sur le web de surface, hein, ce qu'on vous disait à l'époque. Donc, en 2017, sur le web de surface, un utilisateur du nom de Alpracking a publié dans la section Ask Me Anything, hein, AMA de Reddit, en 2017, il a publié des photos de ses installations, de ses possessions, aussi des liasses d'argent, des pilules, dans le but d'essayer de prouver qui il était et de se vanter d'être un ancien kingpin du dark web et d'être responsable entre autres de l'épidémie de Xanax en Amérique. Il décrit aussi comment il a fabriqué, selon lui, plus de 15 millions de pilules en 2 ans sous plusieurs pseudonymes, s'en mettant plein les poches, ça je le cite, mais d'avoir passé le flambeau à d'autres et d'avoir formé des apprentis. Parce que ça, c'est vrai, là, même dans les documents de cours, il a vraiment arrêté en 2017 parce qu'il sentait que les autorités étaient beaucoup trop à ses trousses.
Non, j'en doute pas. Mais de faire un AMA comme ça, c'est encore plus... On se doute qu'il va laisser des traces numériques en faisant ça. C'est vraiment culotté, là, si je peux me permettre. Parce que les gens qui font ça d'habitude sur Reddit, il se dit bien des choses, mais c'est quand même assez sain comme plateforme.
Oui, oui,
oui, il y a des raccoins de Reddit,
oui, oui,
bien sûr.
Toxique,
mais quand tu fais un AMA, cette section-là, c'est une section où c'est des vedettes, hein, des acteurs
oui,
qui vont
exact, oui.
participer à ça, des chanteurs et autres. Donc, d'avoir un trafiquant, un narco trafiquant qui fait un AMA, ça devait être assez cynique dans les commentaires aussi. Là. Les gens devaient douter, devaient se dire si ce qu'il dit est véritable.
Mais il y avait déjà une présence, c'est ça qui est fou. C'est que même, même quand il avait publié ça, il était déjà présent dans toutes sortes de subreddits par rapport à la vente illégale d'un médicament. Mais oui, au début, il y a beaucoup de monde qui riait de lui, mais il y a beaucoup de monde aussi qui le questionnait,
ben oui.
Puis il répondait très franchement. Puis c'est là justement qu'après, il y a eu l'idée d'écrire son manuel donc on va vous parler tout à l'heure. Mais même, je reviens sur ce que tu dis, c'est culotté. Puis je suis tombé sur un vieil article de Vice qui a interviewé Alpracking justement, et l'article se questionnait, ça date de quelques années, il se questionnait pourquoi souvent les revendeurs comme ça diffusent sur le web sans scrupule leurs installations, sans avoir peur de se perdre. Puis Alpracking disait que pour lui c'était une façon de faire du marketing. Il voyait ça tout simplement ça comme ça, puis c'est ça qui est drôle, c'est qu'il n'avait aucunement peur de se faire prendre malgré tout ça. Mais je trouve ça un peu naïf, tu sais, même si je l'ai trouvé, je le trouve quand même intelligent dans toute la mise en place de son infrastructure, puis de ne pas s'être fait prendre pendant des années pour avoir écoulé autant de stock. Reste que, encore une fois, un petit côté naïf, on dirait que la vanité dépasse le comment dire.
Ouais, oui, ben, totalement.
Ça dépasse la raison, en fait, là, t'sais, rendu là, parce que c'est un peu ça qui l'a coulé aussi, là. Il précise avoir arrêté car il a appris que les autorités canadiennes et américaines tentaient de stopper les dommages qu'il causait à la société. Le logo d'Alpraking était aussi présent sur les photos qu'il a publiées tout bonnement en ligne, comme je vous disais. Et sur les photos, il y avait des sachets de Xanax, mais aussi des liasses d'argent canadien, beaucoup, beaucoup de 20 $, là. Il conclut qu'il ne s'est jamais fait prendre. C'est à se demander s'il aurait pu s'en tirer s'il n'y avait pas eu l'ingérence de cambrioleurs violents dans son condo en mai dernier, hein, parce que honnêtement, s'il n'y avait pas eu ça, je ne sais pas s'il avait pu, il aurait pu mettre la main dessus.
Oui, bonne question.
Il a aussi créé, comme je vous disais, le Alpraking, The Kingpin Handbook, donc le manuel du roi, là, ce sont de Alpraking, qu'il publia en plusieurs chapitres sur Reddit où il partage son savoir. On va y revenir un petit peu plus tard.
Je vais vous parler un peu de l'enquête qui s'est déroulée là, justement avant son arrestation. Suite à la preuve suffisante amassée au fil des années, le ministère américain de la Justice a déposé une demande d'extradition pour amener Alexandre Baudry aux États-Unis pour qu'il soit jugé en tant qu'Alpraking. Ils allèguent qu'il a vendu des substances contrôlées à des centaines d'acheteurs de 2016 à 2017 et qu'il a collecté 3000 bitcoins. Et ça, c'est plus de 62 millions de dollars là, au prix d'aujourd'hui. Là. C'est beaucoup quand même.
Oui, oui.
Selon la demande, il aurait aussi demandé à un modérateur de Reddit de retirer tous les commentaires faisant allusion au fait que Alpraking est Alexandre Baudry, alors que de simples internautes auraient réussi à trouver sa réelle identité.
Pis c'est là que tu vois, tu sais, c'est... Comment dire? Il s'est rendu compte de son erreur, tu sais, dans le sens qu'il a demandé, mais le post est encore là, hein, tout est encore en ligne en passant.
Tu peux tout trouver.
Oui, vous tapez Alpraking, Reddit, vous allez tout trouver. C'est toujours là, ils n'ont jamais accepté de le faire, donc ça me fait un peu sourire. Puis c'est facile, une fois que tu as le nom de quelqu'un, de le retrouver, là, de trouver
oui,
son...
Oui, très facile. Voilà. Pendant cette période de 2016 à 2017, Baudry était d'ailleurs très soucieux de ne pas poser les pieds aux États-Unis par peur d'y être arrêté. « Si je suis condamné au Canada, a-t-il dit, je pourrais écoper de 3 ans. Mais si je suis extradé, ce serait 5 ans. Et si je suis condamné aux États-Unis sous le régime du Kingpin Act, parce que c'est un vrai truc, je risque la perpétuité. » Et quand un des subalternes l'aurait invité à aller prendre une bière aux États-Unis, Baudry aurait répondu qu'il ne pouvait pas, car il avait la DEA au cul. On vous a parlé, ben, je viens de mentionner le fameux Kingpin Act, mais c'est quoi au juste cette loi-là aux États-Unis, là? En fait, la Foreign Narcotics Kingpin Designation Act, mieux connue sous le nom de Kingpin Act, est une loi fédérale aux États-Unis visant à lutter contre le trafic international de stupéfiants en imposant des sanctions américaines aux personnes et entités étrangères impliquées dans le trafic de drogue là, sur le territoire américain.
Oui.
Et dans ce cas-ci, c'était clair qu'une grande partie de sa fabrication se retrouvait aux États-Unis. Il était carrément un fournisseur de l'épidémie, là. La loi permet au président des États-Unis et au secrétaire du Trésor d'identifier publiquement les trafiquants importants étrangers et de geler leurs avoirs. La loi interdit également à toute personne des États-Unis de faire affaire avec des trafiquants de stupéfiants étrangers désignés et prévoit à la fois des sanctions civiles et des poursuites pénales en cas d'infraction. Donc c'est assez sévère.
Oui.
Sous le président Clinton, si je simplifie, la création de la Kingpin Act avait pour but au départ de cibler et d'isoler les membres du cartel de Cali en Colombie à partir de 1995, mais elle a été implantée officiellement en 1999. Depuis, le président et le trésorier américain ont invoqué la Kingpin Act pour cibler diverses organisations étrangères de trafic de drogue. Comme on vous le disait, la DEA mène une enquête depuis plusieurs années sur Alexandre Baudry. Il ne manquait toutefois qu'une petite pièce du puzzle aux enquêteurs qui s'est avérée être le symbole sur le médaillon de Baudry, le même qui était associé au vendeur Alpraking partout sur le dark web. Donc, c'est suite à cette longue enquête impliquant des analyses informatiques poussées, du recoupement d'informations ouvertes, l'investigation de comptes bancaires, mais aussi grâce à des témoins repentis qu'Alexandre Baudry a finalement pu être identifié. Parce qu'il y a des gens qui ont témoigné, en fait, là.
Contre lui, oui.
Selon les documents de la Cour, les enquêteurs ont découvert qu'entre mars 2015 et juillet 2017, Baudry aurait réussi à vendre du Xanax sur le Dark Web au point d'empocher 6100 bitcoins seulement à l'aide de trois alliances. Ça se rajoute à ce qu'on a parlé tout à l'heure.
Oui, exact.
Au moment de cet épisode, cela représente la somme colossale de plus de 161 millions de dollars canadiens.
Je l'ai vérifié en date d'aujourd'hui, puis ça concorde, là. C'est même 161 500 000.
OK. D'autres analyses informatiques indiquent qu'au total, Baudry aurait amassé jusqu'à 18 000 bitcoins à travers 22 000 transactions. Donc, c'est un gros portefeuille. Là. Ça explique un peu pourquoi les ravisseurs voulaient son mot de passe.
Hey, 18 000 bitcoins. Ah, là, oui. Il n'y a plus tout ça, mais quand même, hein, c'est une méchante somme.
Ah oui. Ça, c'est ce qu'on sait.
Oui, exact.
Les profits astronomiques que les Américains attribuent à Baudry pourraient expliquer pourquoi celui-ci a pu s'acheter son condo de l'île des Sœurs pour 1,7 million de dollars sans souscrire d'hypothèque en octobre 2021. Il a payé cash.
Oui.
L'information rapportée dans les médias québécois en mai dernier a d'ailleurs été citée dans la requête des procureurs de l'État du Connecticut. Et comme les gens le payaient en crypto, sa fortune est difficilement retraçable et même évaluable, sa fortune totale. Les agents de la DIA savaient que Baudry a fait part de ses inquiétudes d'être extradé aux États-Unis et décopé d'une sentence de prison substantielle. Lui et ses complices ont d'importantes ressources financières provenant du trafic de drogue qui pourraient leur permettre de fuir la justice. Dans des communications privées, Baudry discutait sur des millions qu'il aurait amassés et qu'il gardait dans des comptes offshore ou dans des portefeuilles de crypto-monnaies. En fait, les autorités américaines estiment que l'attaque à domicile qu'a subi Baudry était liée au fait qu'il est en possession d'une somme substantielle de Bitcoin, évidemment. Elles estiment que Baudry prendra des mesures pour augmenter sa sécurité, pour cacher davantage ses actifs ou prendra la fuite. Les États-Unis croient qu'il représente un risque de fuite sérieux et que sa libération durant le processus d'extradition poserait un danger significatif pour la communauté, étant donné qu'il a déjà écopé de prison à domicile au Canada pour avoir produit et distribué des stéroïdes. Et ça ne l'a pas empêché de continuer à envoyer de larges quantités de drogue aux États-Unis, Seb, tout en blanchissant des millions de dollars. Parce qu'il faut blanchir cet argent-là, oui, je ne sais pas comment il faisait en fait, là. S'il est reconnu coupable de toutes les accusations au terme de son procès, il doit s'attendre à une sentence qui ne dépasserait pas 40 années d'emprisonnement.
C'est quand même long, 40
ans. C'est quand même long.
Il y a 31 ans, là, il sortirait à 71. Ben, tu sais, max. Là,
mais le sais-tu, toi, comment il blanchissait son argent, par exemple, pour acheter son condo?
C'est pas très clair. Puis même dans ses conseils, il recommande justement de se créer une coquille. Puis lui, ce qu'il disait, là, puis même je me scoupe un peu, mais ce qu'il disait, c'est que pour pas éveiller de soupçons, toujours acheter ton épicerie, une partie cash, puis une partie avec ton argent à blanchir.
Ah, il blanchissait à petite dose.
Oui, à petite dose. L'essence, il dit, parce qu'il dit quelqu'un qui paye jamais d'essence, puis c'est pas fou, là, mais quelqu'un qui paye jamais d'essence, jamais d'épicerie, tu sais, les dépenses quotidiennes, s'il n'y a jamais de transaction comme ça dans son compte, c'est très suspect.
Ouais.
Fait que lui, il payait ça comme ça, le reste, il payait cash tout le temps. Mais évidemment, il n'a pas donné tous les détails de ça, de comment il blanchissait, mais j'ai aucune idée parce que c'est des grosses, grosses sommes, là, puis qu'il a fait en très peu de temps aussi, là, un condo de 1,7 million dans tout cet argent-là, c'est rien d'une certaine façon. Là.
Oui, bien ça devait être le montant le plus élevé qu'il avait à blanchir son condo, parce que tout ce qui était en crypto, il n'y a pas à le blanchir.
T'as raison,
à l'instant où il dépense dans la vraie vie, que là, ou même virtuellement, que là, il faut qu'il fasse un travail un peu. Mais déjà, 1,7 million à blanchir, c'est pas une mince affaire.
Non, quand même.
Il y a aussi une possibilité que Baudry fasse disparaître de la preuve qui pourrait être utilisée contre lui. Lors d'une perquisition à son domicile, un ordinateur semble d'ailleurs avoir été détruit à distance, disent les autorités américaines à titre d'exemple. Ses outils sont l'Internet et le matériel informatique, si bien que n'importe quel appareil pourra être utilisé pour détruire de la preuve ou pour accéder à ses crypto-monnaies s'il est libéré sous caution, même s'il se fait imposer une assignation à domicile.
C'est un peu ce qu'on disait, là, tu sais, justement, dans sa prison à domicile, là, dans sa première condamnation, il pouvait tout faire là, de chez eux avec son ordinateur. Donc,
oui, même un téléphone.
Oui, exact.
En septembre dernier, en 2022, Baudry espère être libéré après avoir versé une caution de 50 000 $. A-t-il dit « Je suis prêt à respecter intégralement tout engagement pour ma mise en liberté », a assuré Alexandre, dans une déclaration déposée dans son dossier. Selon lui, la preuve ne serait toutefois pas assez convaincante, malgré des témoignages de présumés complices qui ont retourné leur veste contre lui. Il propose donc une remise en liberté en versant, entre autres, une caution de 50 000 $, sans toutefois préciser d'où vient cet argent, puisqu'il se dit sans emploi. S'il est libéré, Baudry irait vivre chez son père, qui s'est d'ailleurs dit prêt à inscrire une hypothèque légale de 600 000 $ sur sa résidence afin de garantir le respect des conditions de son fils. Bon, mais il va peut-être être capable de blanchir 50 000, finalement. Oui, c'est ça. Baudry serait également prêt à porter, à ses frais, un bracelet électronique qui coûte plusieurs centaines de dollars par mois. L'audience aura lieu en octobre, en fait, d'ici quelques jours après notre enregistrement de l'épisode, on va vous tenir au courant, au Palais de justice de Montréal.
Les autorités américaines veulent plus que jamais le rapatrier en rappelant qu'il dispose d'au moins 54 millions cachés pour financer une cavale advenant sa remise en liberté. Ça, c'est dit, ce montant-là, c'est qu'ils ont des preuves. C'est une des preuves qu'ils ont. En somme, il fait face à des décennies d'emprisonnement et il a des dizaines de millions de dollars pour fuir la justice. Il s'est préparé à cette éventualité pendant des années, indiquent les procureurs américains dans un nouveau rapport là, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, de 5 pages, où ils préviennent du danger de fuite d'Alexandre, qui est détenu actuellement à la prison de Rivière-des-Prairies. Il y a quelques semaines, en septembre, il avait annoncé au tribunal qu'il souhaitait présenter un plan de sortie, en fait, à la couronne fédérale, au Canada, en raison d'un nouveau développement, soit la réception d'une liste des objets saisis lors de la perquisition. Par contre, il n'y a rien de plus qui est précisé sur cette liste, donc j'arrive pas à comprendre, l'élément que lui peut pointer comme quelque chose de plus faible là-dedans, mais bon. S'il est libéré, il devra fournir d'importantes garanties, car la DIA, comme on dit, craint qu'il fuit. Si jamais le procureur au dossier refuse le plan de sortie proposé, ses avocats déposeront une requête en bonne et due forme pour sa libération. Mais honnêtement, je pense qu'il ne l'aura jamais, là, avec tous ces avertissements-là des autorités américaines. Le Canada ne se mettra pas à dos. Ils n'ont rien à gagner là, pour faire ça.
Non, c'est clair. En plus, il n'est pas à sa première offense.
Non, exact, raison. Il semblerait également que ses conditions de détention soient exécrables et qu'il semble avoir des difficultés pour obtenir ses médicaments, car entre autres, il souffre de douleurs au dos. Puis ça, je trouve ça un peu ironique.
Oui, c'est très ironique d'ailleurs. Ça y prendrait des petits oxy là, de contrebande.
Oui, exact. Il pourrait en trouver en prison. En
ça
plus,
doit être
ça.
Très cher.
Et crème, tu dis. Hein? Oui, c'est vrai. Hein? Il a également eu de la difficulté à se faire transmettre la preuve contre lui. Face à cette situation, la juge Eliane Perrault a tenu à s'assurer que Baudry puisse rencontrer ses deux avocats afin de pouvoir préparer la suite du processus judiciaire. Mais d'après moi, les Américains, là, ils devaient étirer le dossier. Puis je lisais un peu là-dessus, c'est que il y a aussi une pénurie de personnel dans les prisons. C'est pas juste chez Tim Horton ou chez McDo.
C'est clair.
En prison aussi, il y a une pénurie de personnel. Donc, tout est plus lent également pour ça. Fait que ça peut expliquer aussi ça également. Là.
Mais, d'ailleurs, plus que j'y pense, si on a des distordus en prison, dites-nous donc, ça coûte combien la drogue là-bas? On est curieux.
Oui, je serais curieux de savoir aujourd'hui combien... Oui, c'est vrai, t'as raison. Je serais curieux de savoir combien ça coûte. Aussi, de plus, il n'est pas au bout de ses peines, hein, Alexandre, avec la justice, alors que l'Agence du revenu du Canada, l'ARC, vient d'enregistrer une hypothèque légale sur son condo de l'île des Sœurs qui a payé comptant. Le fisc lui réclame 1,24 million de dollars. Ça doit être en impôts, hein, j'imagine. Les motifs pour tenter de mettre la main sur cet argent n'ont pas été exposés dans l'avis déposé, donc on ne sait pas... sous quel motif ils demandent ça, mais on peut se douter qu'ils ont dû détecter des revenus qui n'ont pas été déclarés. Ils veulent toucher l'impôt là-dessus. Là.
Des taxes non payées aussi. Là.
Oui, exact, ça, surtout avec sa coquille. Puis comme je vous disais aussi, il est derrière l'entreprise marketing Evolix, fondée en 2014. Ce que je vous rappelle, c'est un an avant sa condamnation et un an après sa première arrestation. Là. Donc c'est là, on dirait qu'il s'est encore mieux structuré on dirait au niveau légal pour vendre ses produits sur le web. Donc, histoire à suivre lors de notre prochain bilan, étant donné qu'on va avoir des nouvelles dans les prochains jours. Et en terminant, Émile, je voulais quand même vous parler un peu des 35 conseils qu'il a regroupés sous forme de 3 chapitres là, dans son manuel du Kingpin.
Puis évidemment, oui, je suis curieux d'en savoir là-dessus.
Oui, c'est assez drôle, c'est intéressant. Donc, puis ça aussi, c'est toujours disponible sur Reddit. Donc, si vous voulez vous lancer sur le marché du Dark Web, écoutez bien ceci. Évidemment, je ne passerai pas dans le détail de chacun, mais je vais vous...
Ben oui, il y a quoi? Il y a 20 pages presque.
À peu près, peut-être une dizaine, mais bref, c'est... Il y a 35 conseils, j'y vais rapidement. Il commence en nous recommandant de sous-traiter, hein, de toujours sous-traiter et de toujours embaucher des gens qui sont propres et qui ne sont pas déjà impliqués dans le trafic de drogue ou qui ont des antécédents. Là. C'est assez logique. Également, lui, il sépare toujours l'administration et de l'exécution. Il veut vraiment séparer, un peu comme dans une entreprise, là, les cadres, mais des gens qui sont sur le plancher. Là. Pour lui, c'est mieux de fonctionner comme ça. Il recommande de bien traiter ses employés aussi, mais de jamais les surpayer parce que ça les rend paresseux, en fait.
OK.
Parce que je pense qu'il n'y a pas tort, là, l'humain a tendance d'être comme ça. Il dit payez-les bien, mais jamais trop pour ça. Cela me fait rire de ne pas embaucher une personne de moins de 30 ans. Parce qu'à 30 ans, tu es plus frivole, tu vas dans les bars, tu es moins mature.
À moins de 30 ans, tu veux dire?
Oui, à moins de 30 ans, tu as raison. Puis lui-même avait moins de 30 ans quand il a écrit ça. Lui, il recommande plus d'embaucher des gens de 40 ans et plus qui n'ont pas de casier judiciaire parce que justement, souvent à 40 ans, si tu n'as pas de casier judiciaire, tu es une personne droite.
Des seniors.
Oui, exact. aussi, il nous recommande de dire la vérité par rapport à nos collaborateurs, en fait, de jamais mentir sur des choses qui se passent, s'il y a de la chaleur ou quoi que ce soit. Toujours important d'être transparent avec eux. Aussi, il recommande toujours, en fait, il paye toujours des avocats à tous ses employés. Ils ont toujours leur numéro de téléphone. Ils ont toujours le numéro de leur avocat dans leur téléphone et tous les frais sont payés par lui. Il veut s'assurer qu'on soit toujours bien entouré. Il recommande de ne pas embaucher de gens vous-même, hein, justement, pour ne pas faire de lien si les autorités vous attrapent. Après ça, disposer de différents lieux de travail secrets et différents laboratoires. Puis c'est un peu ce qu'il avait fait lors de sa première arrestation. Puis ça, c'est vrai. Même un peu plus loin, il nous décrit une formule mathématique là, sur la chaleur parce qu'à un moment donné, les policiers vont surveiller les coursiers. Mm-hmm. Puis là, ils vont voir où est-ce qu'ils vont et tout ça. Donc, lui, il recommande justement de varier les lieux.
Oui.
Même dans un autre conseil, de varier les tâches de tes gens justement pour créer un genre de mélange. Le coursier va pas toujours faire des courses à telle place. Il peut
se
partager les tâches. Oui, comme ça. Comme il disait, ça devient plus difficile d'être retracé. Puis même, il avait fait une genre de formule mathématique un peu ésotérique là, par pourcentage de se faire attraper si tu ne fais pas ça. Bref.
OK.
Par la suite, il nous disait que de contrôler l'argent, évidemment, de toujours avoir un œil sur l'argent puis de vraiment surveiller ça de près parce que tu peux te faire voler. Chiffrer tout, donc encrypter toutes vos données, toutes vos communications, d'utiliser des outils importants comme Tails, entre autres, là, pour garder ses communications secrètes. Puis même...
Entre lui et ses collaborateurs.
Oui, exactement. Toujours. Puis même chiffrer toujours ses documents. Un autre des conseils, il disait de faire toujours le ménage chez soi à chaque semaine ou chaque mois, de tout ramasser, justement, pour que jamais rien traîne. Puis même de mettre votre drogue toujours au même endroit et tout ça. Un autre conseil qui disait par rapport justement à l'encryption, de toujours mettre à jour votre Tor et toutes vos technologies que vous utilisez pour vendre sur le dark web. Parce que souvent, il y a des anciens criminels que justement, ils n'avaient pas mis une mise à jour de Tor, hein, parce que Tor aussi continue son développement. Il peut avoir des trous de sécurité aussi dans un navigateur pour aller sur le dark web et tu peux être pris. Donc, il recommandait ça également. Évidemment, il nous recommande de ne pas flasher, hein, de pas avoir de grosses voitures, de grosses maisons, pour pas attirer l'attention sur soi. Ça, c'est évident. Aussi, ça, je trouvais ça drôle. Lui, il recommande de ne pas utiliser ta propre drogue, dans le fond, la consommer toi-même, et même de ne pas l'avoir chez toi. Puis ça m'a fait rire parce qu'il dit cela.
Mais ça, c'est un classique, ça. Never get high on your own supply.
Oui, c'est vrai. Hein, je l'avais oublié. Lui, ce qu'il dit, c'est que ça altère ton jugement, évidemment, puis que ça peut J'aime ça qu'il donne des conseils, que ça peut aggraver ta paranoïa, ton narcissisme. Après moi, il en a pris un peu trop. Et d'autres problèmes de personnalité que vous avez tendance à développer sur la drogue. Puis lui, il dit, surtout, ne prenez pas de Xanax. Et ne prenez pas de décisions importantes, tu vas le regretter. Il recommande de toujours se préparer à être arrêté, se faire tous les scénarios possibles si une arrestation arrive pour être bien, bien préparé. Aussi, il recommande de ne pas trop avoir de l'hyperextension, hein, parce que souvent, de vouloir grossir trop vite malgré les opportunités, ben, tu peux te faire pogner plus facilement. Puis à un certain niveau, une entreprise, là, c'est, même si à un moment donné, tu as 1 milliard de chiffre d'affaires, si ça te coûte 900 millions, puis que tu dégages juste 100 millions, puis que quand tu avais 500 millions de chiffre d'affaires, puis tu faisais 100 millions aussi de profit, tu sais, des fois,
ouais.
C'est un peu ce qu'il recommande. Ah oui, par la suite, puis j'achève là, par la suite, il nous dit que de bien contrôler son pouvoir, en fait, et de ne jamais être trop autoritaire avec tes administrateurs, puis de leur déléguer beaucoup de pouvoir et d'être très à l'écoute. Je trouvais que là-dessus, il y avait un bon management pour ça. Ça, je trouvais ça intéressant. Il disait de ne jamais répondre aux menaces ni à l'intimidation, au doxing et tout ça, tant qu'il n'y a pas une réelle conséquence. Mais j'ai l'impression, moi, que l'invasion à domicile qu'il y a eu, il a dû... Je me demande s'il n'a pas été menacé préalablement. Tu sais, c'est pas méfié quand il a répondu à la porte, là. Mais ouais. Je me demande s'il y a eu... Il y a eu
des signes avant, ouais. Peut-être.
Ça n'a jamais été dit.
Probablement pas, parce qu'il se serait poussé assez rapidement.
Ouais, t'as raison. Je pense que non, là. Nettoyer ça, je vous en ai parlé. Donc, ça ressemble un peu à ça. Ah oui, dernier truc, en fait, deux derniers trucs. De connaître vos droits. Puis ça, il dit vraiment, là, il dit de chercher sur YouTube quand t'es détenu. Puis ça, ça a l'air qu'il y a plein de vidéos YouTube qui t'expliquent comment te comporter si t'es arrêté en fonction de ça. Même, il recommande, pour apprendre des erreurs des autres, de lire tous les mandats ou toutes les arrestations qu'il y a eu.
Oh,
de
bonne idée.
Ben oui, je trouvais ça brillant. Pour apprendre des erreurs qu'ils ont fait, qui a permis aux autorités de les arrêter aussi pour ne pas reproduire cette erreur-là. En terminant, il nous recommande évidemment de blanchir l'argent. Mais ça, c'est ça, il dit de créer une coquille puis un peu tous les détails que je vous ai nommés tout à l'heure, mais il ne donne pas beaucoup plus, ouais, de détails sur ces tactiques. Mais c'est tout de même intéressant, là. Vous pouvez aller le chercher sur Reddit, puis on va le mettre sur notre site web.
Oui, ben oui. Fait, on le traduit même, là, donc on pourrait voir ce qu'on peut faire sur notre site web là-dessus. Ah oui, c'est fascinant cette histoire-là, puis c'est fascinant aussi son manuel du Kingpin,
oui.
Parce que j'ai l'impression qu'il s'est tapé un trip un peu intellectuel à écrire tout ça, là,
oui.
Dans le but de faire de lui un entrepreneur presque, tu sais, inspirant auprès des autres, sauf qu'on se rend compte qu'il suivait pas beaucoup de ses propres conseils, en fait.
Exactement.
Il a dû, le fait d'avoir un médaillon, en tout cas son conseil, son ne pas flasher,
ouais.
Il l'a pas suivi jusqu'au bout, en fait, bien sûr. Et comment dire, je pense qu'il flashait pas trop, à part son condo à l'île des Sœurs, mais quand même, il flashait son logo de trafiquant dans son cou, là, tu sais.
Ouais, c'est ça, mais il devait se dire que personne allait faire le lien, tu sais, puis vu que ça, d'après moi, il doit le porter au quotidien, l'attaque est arrivée assez sournoisement. C'est sûr qu'il n'a pas fait cette équation-là. Je me fais attaquer, il y a les médias qui vont prendre une photo de moi sur la civière, les autorités américaines.
Ah, mais si c'était pas ça, ça aurait pu être, il se fait arrêter au volant de sa voiture, puis le policier le remarque, tu sais.
Ouais, c'est
il
vrai.
Vivait sur du temps emprunté, là,
ça,
en plus,
raison, là,
ouais. Avec son médaillon comme ça, là.
Ah oui, t'as raison, c'est sûr. Parce qu'il se préparait, là, tu sais, fait que c'est certain, mais en même temps, je trouve que des fois, la vie, le karma fait son travail, hein, tu vois qu'il était rattrapé,
oui.
Là-dessus, là, tu sais, en tout cas. Fait que c'est toute qu'une histoire, tout ça, c'est pas une histoire mystérieuse, mais c'est important quand même de vous en parler. C'est rare qu'on n'a pas tant de cas québécois aussi, là, donc c'est intéressant, puis
ben oui.
Ça nous a vraiment permis aussi de découvrir qu'il y a tellement de Québécois dans le trafic du dark web, en fait. Là, donc.
Ben oui. Et vous, les distordus, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà acheté du Xanax d'Alpraking? Qui sait? On ne sait pas. Mais bref, ça fait un plaisir, Seb. Merci encore une fois pour cette histoire que tu nous as menée en grande majorité, là, ce soir, presque en monologue. Mais bref, une belle histoire encore une fois. Dites-nous ce que vous en pensez, les distordus. Dans l'After Show, on a encore un bon programme pour les abonnés Patreon au forfait Oui Monsieur. On va vous parler entre autres de d'autres producteurs de Xanax ou de gens qui ont participé à cette oui. épidémie et qui se sont fait attraper ou non. En fait, il y en a quelques-uns. On va vous parler aussi brièvement du pirate de Gatineau, vous savez, qui non seulement a contribué à des attaques de pirates auprès d'organisations un peu partout, mais qui auparavant a fait énormément de trafic aussi. Donc, pourquoi est-ce que les Québécois, en fait, sont autant impliqués dans le trafic de stupéfiants sur le dark web? C'est une bonne question. Et dites-nous ce que vous en pensez. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Vous savez où on est, hein, sur Instagram, sur Facebook. On a un groupe de discussion privée aussi sur Facebook avec plein de distordus. Je vais le refaire, ça. On a un groupe de discussion privée aussi sur Facebook avec plein de distordus comme vous qui aiment échanger autour de ces histoires-là. Vous pouvez aller visionner nos Disto News sur TikTok. Oh oui. On est sur YouTube aussi, donc on est pas mal partout, mon cher Seb. Mais on ne peut pas se quitter sans remercier nos chers membres Patreon, les commanditaires officiels de Distorsion.
Je commence avec Phil P., Queen Badass.
Oh yeah.
La mystérieuse Charlotte. Audrey B. et Hubert L.
Un gros shout-out à Jean-Marcel H., à Miss B., à Yann D., Martin R. et Kim CF.
Je poursuis avec beaucoup d'amour pour Faustine et Serpentine, ainsi que MC P. et le ou la mystérieuse Pidou Pidou.
Oh yeah! Beaucoup d'amour à Aurélie SP, à Aérolux Lux, un autre beau nom, à Valérie L et à Kimik L.
Je poursuis avec Marie-France R, Alexandre, Julie H, Jonathan P, Mathieu L et Max C.
Un gros câlin à Sarah D, à Baptiste A, à Marika, à Vincent C et à un certain distordu du nom de Un peu rejet. Nous, on t'aime, on t'accepte.
Oui, on est toujours là pour toi. Je poursuis avec Chat Formation, Amélie C, Marjolaine P, Marie-Ève C et Azumi.
Beaucoup de love à Papa de Joy, à Derek M, à Bush Mike, à Sarah PH, à AP Livernoche.
Encore de l'amour pour Barbara, No Gibson.
Moi aussi, j'aime les Fender.
Vanessa W, Les Bibous, qui elle.
Aussi pour terminer, un gros shout-out à Roxane C, à Audrey, à Jenny Dark, à Joël GF et je termine avec le charmant Frank B.
Merci à vous, on vous aime.
Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nous, mon cher Émile?
Si vous souhaitez garder un secret important, on vous conseille de ne pas le porter au cou.
Oh!